Chapitre 72. Quand elle eut terminé, Nietzsche contempla l'arc comme s'il était une œuvre d'art, mortelle certes, mais hautement esthétique. D'un blanc d'ivoire, l'os était veiné de lignes dorées, une caractéristique magique liée au dragon, pas à l'intervention de la jeune femme. Via ce pouvoir spécifique, l'arme serait unie au monde et à la vie. Nietzsche brûlait d'impatience de s'en servir contre Victoria. Les meilleurs archers de surplomb du monde lui avaient apporté de très belles et solides cordes en boyaux de mouton. Sur sa demande, il lui avait également confié des flèches à tête de fer, avec des arêtes aussi coupantes qu'une lame de rasoir, et à empennage en plume de corbeau. Quand elle eut bandé l'arc, il vibra d'une incroyable énergie. Celle d'une des plus belles créatures du monde, à savoir un dragon intimement lié à la source même de la vie dans les entrailles de la terre. Selon toute probabilité, le même type de pouvoir que celui du premier arbre. Cette vibration, comprit Nietzsche, c'était aussi l'excitation de Grimney, pressé de se lancer dans une ultime quête. Nietzsche était prête, les flèches aussi. Avec son arc, elle remonta les couloirs jusqu'à une grande salle de réunion au cœur du complexe. Nathan l'y attendait en compagnie de Mia. À leur expression, la magicienne comprit que quelque chose n'allait pas. Inquiète, elle serra plus fort son arc.
« Que se passe-t-il, sorcier ?»
Nathan ouvrit la bouche et la referma comme s'il ne trouvait pas ses mots.
« Je t'écoute. »«
L'arc ne suffit pas, » murmura le vieil homme.
À cet instant, Bannon entra dans la salle d'une démarche guillerette. Lavé et changé, Chardon le suivait comme une brave petite sœur. Excité par la bataille à venir, le jeune homme était encore trop naïf pour avoir peur.
« Victoria n'a qu'à bien se tenir, comme le buveur de vie quand nous lui avons réglé son compte. Tu veux que je t'accompagne, magicienne ?»
Nietzsche leva une main si brusquement qu'elle aurait tout aussi bien pu avoir lancé un sort de silence sur Bannon. Chardon écarquilla les yeux de stupeur. Tout aussi choqué, Bannon regarda autour de lui et vit l'expression sinistre de Nathan.
« Que se passe-t-il ? Nous avons un problème ?»
Le sorcier désigna les vieux livres posés sur une table.
« Un arc en os de dragon est une arme dévastatrice, et Nietzsche a le pouvoir requis pour l'utiliser. Mais il faudra plus que ça pour abattre Victoria. Il y a un prix à payer, et il est élevé. »
Nathan prit un grimoire, l'ouvrit et le tendit à Nietzsche.
« Lis le texte que Mia a restauré, magicienne, et fais-nous part de tes conclusions. » Hélas, ces mots sont très explicites.
Mia regarda la page comme si elle espérait la voir changer devant ses yeux, puis elle se laissa tomber dans un fauteuil.
« Pris ou pas pris, » dit Bannon, « nous devons vaincre Victoria. Après ce qu'elle a fait à ces pauvres filles. »
Nathan chercha le regard de Nietzsche et souffla.
« Pour tuer la maîtresse de la vie, tu devras utiliser ton arc et une flèche trempée dans un poison très particulier. Une toxine capable de dévaster la vitalité du sort.
« Quel poison ?»
demanda Chardon. Nietzsche lut les mots en même temps que le sorcier les récitait.
« La perte d'un être aimé. Quelle que soit la puissance de l'arc et la dureté de la tête de flèche pour tuer Victoria, il faut qu'elle soit trempée dans le sang d'un être que l'archer ou l'archère aime profondément. Le sang du cœur de la victime après qu'elle l'eut tuée. Magicienne, nous savons que toi seule peux manier cet arc dans les circonstances actuelles. »
Bannon et Chardon poussèrent un petit cri et Mia s'affaissa sur son siège. Nietzsche relut le sort et comprit enfin ce qu'il signifiait vraiment.
« Ce n'est pas acceptable !»
lança-t-elle. Avant qu'elle puisse en dire plus, un bruit lointain retentit, faisant trembler les murs de la salle, puis se répercuta le long des couloirs. Des érudits accoururent pour voir ce qui se passait. Un vieil archiviste à la longue barbe blanche passa la tête dans la pièce et cria
« Notre mur de défense ! Les lianes de Victoria l'attaquent !»
Ses compagnons sur les talons, Nietzsche sortit de la pièce et se fraya un passage parmi les érudits et les mémoristes affolés. Plus rapide que tout le monde, Chardon arriva la première devant la muraille, déjà constellée de brèches que des hommes et des femmes tentaient héroïquement de colmater avec tout ce qui leur tombait sous la main. Comme prévu, les plantes grimpantes de Victoria avaient escaladé la falaise. Des lianes et des racines ayant fracturé le mur, elles tentaient à présent de l'abattre. Les planches utilisées à l'origine par les défenseurs s'étaient retournées contre eux, aidant les envahisseurs. Soudain, une partie du mur s'écroula et la peste végétale prit pour la première fois pied dans le complexe. Mia eut un cri de détresse quand elle mesura l'étendue du désastre. Toujours aussi vive, Chardon échappa à une liane qui tentait de s'enrouler autour de son torse. Une autre se détendit comme un fouet et l'égratigna, mais elle la repoussa et recula hors de portée des végétaux, pour le moment. Voyant que Nathan n'avait pas son épée, Bannon dégaina solide et chargea les attaquants pour protéger son mentor. Tandis qu'il taillait dans la masse, une branche le frappa à la tempe si fort qu'il en vacilla sur ses jambes. Nathan prit son disciple par le bras et le tira en arrière, juste à temps pour lui épargner un autre coup de boutoir. La tête en sang, Bannon lâcha son épée, qui rebondit sur le sol avec un bruit métallique. Pour pouvoir évaluer la gravité de la blessure, le sorcier fit de nouveau reculer le jeune homme vers une illusoire sécurité. Saisi de stupeur face à la vague de fureur végétale, Mia ne réagit pas assez rapidement. À la vitesse de l'éclair, une liane hérissée de piquants s'enroula autour de sa gorge, les épines déchirèrent la chair et les artères, et du sang jaillit.
« Non !»
cria Nathan. Il bondit en avant, main tendue, pour lancer un éclair magique. Hélas, rien ne se passa, même pas l'ombre d'une étincelle. D'un coup sec, la liane brisa la nuque de sa proie, puis la lâcha dédaigneusement. Bousculant des érudits paniqués, Nietzsche essayait de se frayer un chemin jusqu'en première ligne. Quelle magie pouvait repousser un tel adversaire ? Sans se soucier des gémissements de Bannon et des cris désespérés de Nathan, la jeune femme pensa à la façon dont elle avait remodelé la muraille de pierre fondue dans les sous-sols de la tour endommagée. Entrant en contact avec la structure même de la falaise, elle en fit fondre une partie pour qu'elle forme un rideau impénétrable devant la muraille artificielle malmenée par les plantes. Sous son contrôle, la roche en fusion se resolidifia, étouffant une bonne partie des lianes et des branches ennemies. La falaise nettoyée, il n'y avait plus aucun risque. Momentanément. À genoux, Mia serrée dans ses bras, Nathan pleurait à chaudes larmes.
« Elle était si intelligente et si loyale. Sans elle, nous n'aurions jamais trouvé la suite du sortilège. » Si nous avons encore une chance, c'est grâce à elle.
Oui, il nous reste encore une chance,
affirma Nietzsche aux érudits et aux mémoristes accablés. Malgré ses propos, elle ne se faisait aucune illusion sur les difficultés de sa mission.
Pour la flèche, il nous faudra le poison requis.
Mais comment le collecter? Le sang d'un être qu'elle aimait, venu de son cœur?
« L'ennui, c'est que je n'aime personne, »
lâcha-t-elle froidement. Une constatation sinistre est parfaitement vraie. Son grand amour, le seul homme pour qui son cœur battrait toujours, c'était Richard. Avec une passion qui ne se démentait pas, même si elle avait évolué, elle continuait à l'aimer. Au début, cet amour était une perversion, mais elle avait changé. Devenue plus mûre, elle s'était habituée à l'idée que Richard n'avait qu'une femme dans sa vie, Callan. Ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre et rien ne les séparerait jamais. Rien ne devait jamais les séparer. Nietzsche avait atteint cette conclusion très longtemps auparavant. Depuis, elle aimait toujours Richard, mais d'une façon différente. Pour le servir, elle était venue dans l'ancien monde, prête à ensemencer le terreau où pousserait un nouvel âge d'or, et tant pis si ça impliquait d'être loin de lui. Elle n'avait pas cru la prédiction de Rouge disant qu'elle devrait sauver le monde pour Richard. Une grossière erreur. Le buveur de vie, puis Victoria, menaçait de dévaster l'empire d'Aran. Contre la maîtresse de la vie, Nietzsche devait impérativement triompher. Mais pour ça, il lui fallait le sang d'un être aimé. Richard. Elle ne voyait pas qui d'autre. Et personne autour d'elle n'était capable de décocher le trait mortel à Victoria. Nathan privé de pouvoir, une bande de débutants qui ne lui arrivait pas à la cheville, aucune alternative possible. Quelqu'un qu'elle aimait, sincèrement? Richard, encore et toujours. Mais à quoi bon sauver le monde pour lui s'il fallait le tuer d'abord? Informé de la situation et conscient des enjeux, Richard n'aurait pas hésité une seconde. Déchirant sa chemise, il lui aurait offert son cœur pour qu'elle le vide de son sang. Volontairement, il lui aurait fourni le seul poison capable de tuer Victoria. Mais il était à l'autre bout du monde. Et de toute façon, elle ne pourrait jamais le tuer. Alors qu'elle le lui avait demandé, forcer son cœur à s'arrêter lui avait dévasté l'âme, mais il s'était montré insistant et elle ne pouvait rien lui refuser. Aujourd'hui, que faire? Sacrifier le monde pour que Richard vive un petit peu plus longtemps? Une équation absurde, elle le savait, mais elle opterait pourtant pour cette solution. Quelque part dans les terres noires, Rouge devait être plié de rire. Le sang d'un être aimé. Tendant l'oreille, Nietzsche capta les gémissements des érudits et des mémoristes, tous désespérés certes, mais beaucoup moins qu'elle. Après une quête périlleuse pour obtenir une côte de dragon, elle avait cru détenir l'arme capable de détruire Victoria. Une illusion, car il manquait un composant qu'elle ne pourrait jamais se procurer. Que faire dans de telles circonstances? Assis sur le sol, Nathan regardait le visage sans vie de Mia.
« Je suis désolé, ma chérie, » dit-il en caressant le front de la morte.
Puis il sortit le mouchoir toujours humide et frais, un magnifique cadeau, et s'en servit pour lui tamponner les joues. Nietzsche tourna la tête vers Chardon. Par bonheur, n'était des égratignures sur une jambe, elle était indemne. Le crâne en sang, Bannon vint se camper devant Nietzsche. S'appuyant sur son épée qu'il avait récupérée, lui seul savait comment, il porta sa main libre à sa tempe, essuya le sang et se jeta à l'eau.
« Je suis ton homme, magicienne. Personne d'autre ne peut le faire. »
Il déchira sa chemise pour exposer son torse.
« Je sais que tu as des sentiments pour moi. Je l'ai vu dans tes yeux après notre victoire sur le buveur de vie. Tu m'as trouvé utile, pas du tout un boulet. J'ai vu ce que Victoria a fait à Audrey, Laurel et Sage. » Et j'imagine ce qu'elle infligera encore au monde. Si ça peut tout arranger, je suis prêt à donner ma vie. Prends ton couteau et arrache-moi le cœur. De toute façon, il t'appartient. »
En l'attente du coup mortel, le jeune homme leva la tête et ferma les yeux. Abasourdi, Nietzsche le foudroya du regard.
« Ne sois pas stupide. Ça ne fonctionnerait pas. Et je n'ai pas de temps à perdre. »
Plantant là le jeune héros dépité, Nietzsche partit en direction de la salle des archives avec l'espoir d'y découvrir une autre solution. Après tout ce qu'elle avait subi dans sa vie, il était bien possible qu'elle n'aime personne.